Merci beaucoup pour l'invitation. J'avais peur d'avoir perdu mon latin, puisque je n'utilise pas le français normalement, parce que c'est plutôt en anglais, en Nouvelle-Zélande. Mais je suis content vraiment de pouvoir être avec vous et porter la parole de Dieu. Quand Guy m'a proposé le passage, enfin, quand il m'a invité, il m'a aussi proposé le thème de ce matin. Ne vous y inquiétez pas. Alors, je m'inquiétais sur la langue, et il me dit, t'inquiète pas. Et c'est une phrase, n'est-ce pas, qui s'entend à tout bout de champ. Ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas. Je l'entends partout. Et j'ai passé le plus gros de mon temps à Marseille, et à Marseille, j'avais entendu pour la première fois, t'inquiète, t'inquiète. Et je dis, c'est pas français, ça, t'inquiète. On me dit pas, t'assois, on me dit pas, te lave, pourquoi t'inquiète? Et puis je me suis rendu compte que c'était après avoir demandé à ce que quelqu'un termine un travail, il me dit « t'inquiète, t'inquiète, et t'inquiète ». Puis je me suis rendu compte que ça c'est pour repousser encore le lendemain un truc qui devait se faire. En quittant la Nouvelle-Zélande, on avait notre maison en vente, et au fil des semaines qu'on était en France, elle ne semblait pas vouloir se vendre. Et mon ami le plus proche en Nouvelle-Zélande me dit « David, ne t'inquiète pas ». Et mes filles, David, ne t'inquiète pas, papa, ne t'inquiète pas. Et puis Guy m'invite pour donner un message, et le thème, ne vous y inquiétez pas. Mais le texte de ce matin est quand même sur le niveau des préoccupations de la vie quotidienne, mais s'applique quand même à toute préoccupation de la vie. Et il est à noter qu'au temps de Jésus, quand même, que l'espérance de vie n'était que d'une quarantaine d'années. Plutôt qu'aujourd'hui avec une soixantaine ou 70 ans d'espérance de vie. Même pour fournir à sa famille les besoins fondamentaux de la vie, de tous les jours, c'était chose très difficile. Personne n'était à l'abri des difficultés et tout le monde avait beaucoup de difficultés à fournir, ne serait-ce qu'à manger pour la journée sans penser au lendemain. Et c'est une petite minorité de gens qui connaissaient le luxe de savoir que le repas le lendemain était assuré. Mais nous sommes au cœur du sermon sur la montagne. Et Jésus, dans ce sermon, a donné nombreuses lois et commandements qui sont, disons, le impossible à réaliser. Et dans le contexte de ces choses impossibles à réaliser pour ce qui est de l'homme, Dieu nous enseigne ce que c'est compter sur lui, que c'est impossible à l'homme de les garder, mais il nous invite à nous rejeter sur lui, à lui faire toute confiance pour ce qui est de la réalisation. Mais pourquoi cette exigence extrême dans les paroles de Jésus? Est-ce destiné à être un poids pour nous? Et je dirais absolument pas. Parce que c'est un appel à la remise de nos soucis pour nous rappeler notre dépendance, notre condition humaine d'abord, et ce que c'est se jeter dans les bras de Jésus. Nous le savons pour ce qui est du salut. Nous savons ce que c'est nous jeter dans les bras de Jésus, puisqu'il n'y a aucun autre secours. Il est le seul. Non. Il est le chemin, la vérité. Et la vie, et pour ce qui est de notre salut, nous savons qu'il n'y a pas d'autre ressource. L'homme général, les hommes et les femmes aujourd'hui ont toujours cette idée, ah, je suis au plus bas de moi-même, ah non, j'ai encore une petite ressource, j'essaierai d'autres choses avant de me lancer à Dieu. Et ça les éloigne de plus en plus de Dieu. Mais puisque de notre salut, nous savons que nous n'avons qu'une ressource en Jésus-Christ, aujourd'hui, Jésus, dans ce texte, nous invite à bâtir le monde que Dieu désire. Pas pour plus tard, pas pour le millénium, mais pour aujourd'hui. Et Jésus, aujourd'hui, appelle des gens qui le suivaient, à ne pas se soucier de leur vie. La traduction française du mot vient du latin, qui veut dire tourmenter, préoccuper, se préoccuper. Et en vieil anglais, le mot signifiait s'étrangler, s'étouffer. Et c'est justement l'effet des soucis. Ils vous tourmentent, ils vous préoccupent, ils vous étouffent et par extension, ils étranglent, ils étranglent notre productivité et surtout notre joie. Que veut dire donc Jésus en prononçant à trois reprises cette phrase « Ne vous souciez pas ». Je viens d'un pays où les autochtones, les Maoris, sont très insouciants pour ce qui est de la vie. Trop insouciants, au point de se laisser aller dans le passivisme. Et j'ai entendu une fois le témoignage d'une vieille dame Maori, elle était interviewée à la radio pour ses 100 ans, et on lui a demandé le secret de sa vie. Elle a réfléchi, elle a dit « Quand je marche lentement. Quand je m'assois lentement. Et quand je me fais de soucis, je m'endors. » Ils sont très insouciants dans la vie. Mais est-ce là le sens de ce passage? Parce que Jésus a trois reprises dit « Ne vous souciez pas ». Dans le verset 25 du texte que je vais lire, Jésus dit, enfin il semble reconnaître que c'est une pratique habituelle à l'homme, parce qu'il dit « Arrêtez de vous soucier ». Le sens du terme « Arrêtez de vous soucier » la première fois. Dans les versets 31-34, il utilise le même verbe, mais dans une autre forme. Il dit « Ne commencez pas à vous soucier, ne commencez pas à vous soucier ». Nous sommes en Matthieu chapitre 6, et c'est le verset 25. C'est pourquoi « Je vous dis, Jésus, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez pas donc et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et la justice de cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, comme si Jésus nous disait aujourd'hui que si nous passons notre temps dans l'anxiété, Que dire de notre foi? Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, avec un Père céleste, nous n'agissons pas toujours en tant qu'enfant. J'ai trois enfants, ils ont grandi, ils ont des enfants. Mais je me souviens de mes trois enfants, jamais une seule fois, je me souviens des enfants qui me disent un matin, « Est-ce que tu es mon père ? Si je pars à l'école, est-ce que tu seras là à mon tour ? Est-ce que j'aurai un toit sur ma tête ce soir ?» Le fils avait la clé de la maison, il rentrait de l'école, droit au frigo, dévalisait tout dans le frigo, et il agissait en tant qu'un enfant avec un père. Et nous, avec un Père céleste, devrions-nous agir différemment vis-à-vis de Dieu? Après tout, Dieu nous a sauvés des griffes de Satan, il nous a sauvés de l'enfer. On le croit? Non. On le croit? On est convaincu? Non. Nous croyons que Dieu peut nous délivrer chaque jour du pouvoir de Satan, autrement comment vivre en tant que chrétien si Dieu ne nous délivre pas de Satan, du pouvoir de Satan. Mais nous croyons que Dieu nous réserve une place dans le ciel, on le chante très fort. Et très souvent on chante des choses qu'on ne vit pas tous les jours. On n'a pas de souci à cet égard. Mais lorsqu'on prépare la semaine devant nous, parfois on pense qu'on serait mieux si on l'abordait avec une bonne dose d'incertitude, d'anxiété. Et ce n'est pas logique, car être sans souci pour ce qui est du sort de notre vie éternelle, pourquoi beaucoup de soucis concernant le quotidien? Ça n'a pas de sens. Et ceci dit, Jésus n'est pas indifférent à notre sort, à notre situation en tant qu'homme et femme. Il n'est pas incapable non plus de porter secours devant l'amplitude de nos problèmes. Et il parle ici dans ce texte pour nous aider à faire face aux problèmes que nous avons tous dans ce domaine, des problèmes qui sont communs à tout le monde. Je me permets peut-être une petite parenthèse pour nous rappeler qui c'est qui parle. Parce qu'il y a trois fonctions principales que Jésus exerce en tant que Messie. Enfin, des fois, il parle en tant que Messie. On lit, on voit que c'est le roi qui parle, c'est le Messie. Tantôt, il parle en tant que sacrificateur, car il est le sacrificateur suprême. Et il parle ainsi. Et parfois, il parle en tant que prophète. Mais ici, dans ce texte, c'est plutôt sur le registre de la sagesse. Et Jésus nous invite, par exemple, à contempler les oiseaux du ciel et le lys des champs, et en ce faisant, pour nous rappeler la compassion de Dieu, la compassion divine. Oui, Jésus fait figure de sage, et avec ce vocabulaire, même le ton, il nous donne un proverbe qui est en français, à chaque jour suffit sa peine, et il y a des gens qui le sortent aussi, et quand les gens le sortent en anglais, je leur rappelle l'origine de ce proverbe, ainsi que d'autres qu'ils citent, mais ne sachant pas qu'ils viennent de la Bible. Mais Jésus sort cette phrase à la fin, à chaque jour suffit sa peine. Mais que dire d'une telle phrase? Comme j'ai dit, elle est dans le contexte de ce long serment sur la montagne, et vous êtes en train d'étudier ce serment, et vous avez vu combien le serment nous fait prendre conscience de cette réalité constante qui est nos soucis de l'être, les soucis de l'être humain, les soucis de tout le monde. Mais est-elle donnée un coup de bâton? Non, non. Elle nous est offerte afin qu'on puisse éviter le stress de l'être humain. Et Dieu sait à quel point le stress est un facteur dans la vie de nos pays affluents, les pays occidentaux en tout cas. Mais les leçons de ce serment sont encore valables aujourd'hui, autant qu'elles étaient valables pour l'époque de Jésus. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à son existence? C'est une bonne question, une très bonne question. Et à tous ceux qui sont stressés par le travail, qui vivent un chômage sans fin, ceux qui sont peut-être angoissés par les examens, les concours, tout le monde est passé par là, mais que dire de la situation de ceux qui sont touchés par des cancers, par des maladies, ou pour ceux qui entourent des personnes qui sont gravement malades? Qu'en est-il donc pour ceux qui sont affligés par les difficultés de la vie? Cette question nous fait réfléchir à tous, car ces difficultés sont pour tout le monde. Mais la question est pourtant plus que pertinente. Pourquoi? Parce qu'on sait à quel point le stress peut étrangler une personne dans sa vie. Et la recommandation de Jésus est pleine de sagesse, pleine de sagesse. Mais s'il est sage, il ne nous invite pas à une préoccupation philosophique ou théorique. Oui, il fait appel à notre bon sens, mais il sait combien cela est insuffisant dans ce domaine. Et sa réponse est loin d'être théorique. Elle est loin d'être un mantra. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa peine. C'est pas ça. C'est pas en le répétant maintes fois que ça se réalisera pas. Ça se réalisera. Mais ce n'est pas non plus en imaginant avec beaucoup de foi, avec beaucoup de foi, je mets beaucoup de foi, chaque jour suffit sa peine. C'est pas ça non plus, parce que ça, c'est se remettre à ses propres capacités de se relever de la situation. Et ce n'est pas en imaginant que, en restant à la maison, assis devant le télé ou couché au lit, que cela va se réaliser aussi. Oui, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Mais elle est une bonne nouvelle sans paraître être une bonne nouvelle à première vue. Mais elle est donnée comme être une bonne nouvelle parce que Dieu se soucie de nous. On ne peut pas interpréter comme si Jésus est inconscient de notre situation. Mais Jésus prend notre souci très au sérieux, mieux, il s'en charge. Et sa réponse est que nous puissions déposer notre stress, notre anxiété devant lui et savoir qu'il s'en charge. Et c'est une invitation à nous détourner de nous-mêmes. Et je crois que c'est le premier pas pour nous arracher à nos soucis, à nos angoisses, etc. Et Jésus nous appelle à aller un peu plus loin encore, à lâcher le volant de sa vie, à lâcher le volant. Ça, c'est dur. Ça, on n'a pas trop l'habitude de le faire, parce qu'on tient ce volant de guider sa vie, mais Dieu nous invite à lui donner le volant de notre vie. Il nous invite à vivre par la foi, et c'est ça, la foi en tant que chrétien. Car la foi, croire, c'est se présenter devant Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Et ce n'est pas une question théorique, comme diraient beaucoup de Français. Non, la foi touche la vie tout entière. C'est une relation quotidienne avec Dieu. Mon fils, qui est dirigeant d'une entreprise dans le Gers, a reçu une demande d'un journaliste de venir parler, discuter de sa situation dans la société. Et après 2 heures, le journaliste lui a dit « Il y a quelque chose que je n'arrive pas à cerner ». Et mon fils Philippe a dit, mais tu m'as pas posé la question la plus importante. Comment ? 2 heures, j'ai passé. Ouais. Mais vous ne m'avez pas parlé de la foi. Il dit, oh, la foi ? Mais quel rapport ? Quel rapport avec la vie ? Vous parlez de Dieu ? Oui. Quoi ? Il a dit, mais c'est ce qui influence toute ma vie. Mon couple, ma famille, mon entreprise, ma vie d'église, ma vie de tous les jours. Et ce garçon avait des yeux grands comme des soucoupes. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Donc quand l'article est paru dans le journal, Kidam, il a manifesté sa propre surprise de voir un homme d'affaires avec une foi en Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu se soucie de nous. À chaque jour suffit sa peine. Mais deuxièmement, Dieu nous appelle. C'est une réalité quotidienne, mais sans... Il ne nous appelle pas au laisser-faire, au passivisme. Il pourvoit, mais ce n'est pas pour que nous ne levions pas le petit doigt sans rien faire. Même les oiseaux que Dieu a créés sortent tous les jours pour chercher à picoter, à chercher leur nourriture. Et on a une phrase en anglais, un proverbe en anglais qui dit que l'oiseau matinal attrape le vermisseau. C'est le premier du lever qui attrape le vermisseau qu'il trouve. Mais quand l'oiseau fait ce que font naturellement les oiseaux, ils vivent bien. Et quand les lys des champs font naturellement ce que font les lys des champs, ils vivent bien aussi. Et pourtant, ils sont au plus bas de l'échelle des valeurs. Ils fleurissent, et puis quand ça sèche, on les coupe et on les utilise pour démarrer les feux. Et Jésus dit, au plus bas de l'échelle, ces lys qui fleurissent servent qu'à démarrer les feux le lendemain à la fin de leur vie. À nous donc, qu'est-ce que ça demande ? Ça demande à ce qu'un laboureur sert pour labourer, désherber, biner, fertiliser, planter les champs. Je me souviens d'un évangéliste qui a eu l'idée d'aller évangéliser les campagnards. Et il est parti en voiture, s'est arrêté au bord du chemin quand il avait un homme avec sur le tracteur. Le tracteur s'approche et ne sachant pas comment démarrer la conversation, il lui dit, quand il descend son tracteur, « Ah, monsieur le paysan, vous devez être heureux de savoir que Dieu donne une abondance dans votre travail. » Et ce fermier le regarde et dit, « Vous auriez dû voir ces champs quand Dieu les avait pour lui seul, hein ?» Ben, l'un dit « Dieu donne tout », l'autre dit « Moi j'ai tout fait », il y a quand même les deux. Oui, c'est Dieu qui donne la croissance, mais le paysan sait qu'il a labouré tous les jours, il travaille. Mais il pensait aussi que ça venait que par ses propres efforts, et non. Et Dieu nous donne à tous un rôle dans sa vie, et quelle que soit sa situation. C'est Dieu qui pourvoit et qui fructifie la vie. Alors prévoir et vaquer aux besoins du lendemain ne sont pas interdits. C'est l'anxiété que Jésus vise. Quand Dieu nous a appelés en France, j'étais comptable. 1970, on avait vraiment la conviction que Dieu nous appelait en France. Et Dieu nous a fait comprendre, je ne dis pas que c'est la norme pour tous, mais Dieu nous a fait comprendre qu'il pourrait s'occuper des trois besoins fondamentaux que nous aurions en France, le manger, le vêtement, la vie. Et Dieu nous a fait comprendre, Dieu m'a fait comprendre que je n'avais plus à faire des prévisions. Pour un comptable, ne pas faire des prévisions, on en fait dans le sommeil. Pour la société dans laquelle on travaille, on fait toutes sortes de prévisions. Et Dieu nous dit, tu ne feras pas de prévisions pour ta vie en France. Donc on n'avait pas à prier pour que les besoins fondamentaux, le vêtement, le manger et le logement, soient là. Je ne dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire, mais ce que Dieu nous a appelé à faire. Et même lorsque la France et la Nouvelle-Zélande étaient en conflit au sujet des essais nucléaires dans le Pacifique, où on avait coupé tout contact téléphonique, bancaire, PTT, aucun contact entre les deux pays à cause des essais nucléaires et le Rainbow Warrior, à travers ces semaines de bis-bis, Dieu a pourvu autrement qu'à travers la Nouvelle-Zélande. Parce que Dieu est le Dieu de demain, comme il est le Dieu d'aujourd'hui. Et on le dit, yeah, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les Lamentations 23-23 nous rappellent que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, chaque matin. Alors faisons donc ce qui nous incombe de faire, c'est de travailler pour pourvoir nos besoins, pour ceux de notre famille, pour ceux qui sont dans la disette, en difficulté, dans la mesure du possible. Mais quand on n'arrive pas, on se remet à Dieu qui connaît nos limites et qui peut nous relever. Qui peut relever nos fardeaux. Les oiseaux ont été créés pour dépendre de Dieu, les lys des champs aussi, et nous aussi. On a été créés pour dépendre de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas dans le monde, parce que les gens ne réalisent pas que leur besoin fondamental, c'est une dépendance de Dieu. Alors quand nous vivons avec tout ce que nous avons, et vient la sécheresse, et elle viendra, la sécheresse viendra à tout le monde. Déposons nos fardeaux devant Dieu. Et cela avec reconnaissance. Reconnaissance dans deux sens du terme, du mot en français, qui ne sont pas là en français, en anglais. D'abord, reconnaître Dieu. C'est lui qui fait lever la semence. C'est la main de Dieu dans ma vie. Donc je dois reconnaître Dieu dans ma vie. Et deuxième sens de reconnaissance, c'est ce que j'ai entendu ce matin dans les louanges, c'est merci Seigneur pour les bontés de Dieu. Donc il ne s'agit pas de rien faire, mais de voir les choses comme Dieu les voit. Troisièmement, Jésus ne nous soumet pas à une obligation de résultat, car on peut se tromper. Il ne nous appelle pas à travailler plus, ni même à travailler moins, mais à œuvrer de manière juste. Et ça, c'est le sens de cette phrase, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot. On est appelé à nous impliquer dans cette action, chercher d'abord le royaume de Dieu. Mais tout dans le contexte de ce serment sur la montagne, avec la foule de commandements qui sont impossibles à réaliser, et cette exigence extrême dont j'ai parlé, qui n'est pas destinée à être un poids pour nous, mais nous rappeler notre incapacité à obéir à la loi, Dieu ne nous donne pas des phrases pour nous terrasser, mais c'est là-dedans que nous pouvons tendre vers ce qui peut devenir le royaume de Dieu. Nous sommes invités à bâtir ce monde que Dieu désire. Et le préalable à cette quête, c'est de se savoir vulnérable. Vulnérable, ben oui, se savoir limité. Pourquoi ? Pour compter sur lui, pour pouvoir compter sur lui. Dieu aime notre expression de dépendance. De vulnérabilité aussi. Je termine avec une quatrième chose. Si Dieu se présente en tant que sage, si Jésus a une phrase pleine de sagesse, est-ce vraiment un conseil de sage? Est-ce que vous allez dire aux gens, abandonnez les soucis du lendemain? Est-ce que c'est à la légère que vous allez dire? Qui d'entre vous ne conseillerait à ses amis, oui, abandonnez à Dieu les soucis du lendemain? Mais ce n'est pas une invitation raisonnable. Parce que Dieu nous invite, Jésus nous invite à la folie de la foi. À la folie de la foi. Et c'est là, dans cette folie, que se trouve la vraie joie et le bonheur. Et n'a-t-il pas commencé ce sermon avec toute une suite de heureux, 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 à plusieurs reprises. Et il nous invite à ce bonheur dû à chaque jour suffit sa peine. Non seulement une invitation au bonheur, mais une invitation à discerner, à bénéficier des joies du jour. Car il dit heureux ceux qui remettent leur peine à Dieu, ceux qui déposent leurs soucis, le souci de tous leurs besoins devant Dieu. Je crois que c'est là le sens du passage. Aujourd'hui, on peut renouveler notre dépendance de Dieu. Il aime bien entendre le chant, notre reconnaissance. Il aime bien entendre que, oui, sans lui, nous n'avons rien dans la vie. Mais vivons comme des enfants doivent vivre. Rappelez-vous votre enfance. Si vous avez connu une famille stable, vous avez eu le confort, l'assurance d'une vie où tout était assuré pour vous. Nous avons un Père céleste. Dites-lui, Seigneur, tu es mon secours, tu es mon Seigneur, mon Dieu. Et cette confiance totale qu'on exprime tous les jours, dans nos discussions, dans notre témoignage, lorsque les gens vous interrogent, mais d'où vient votre sécurité? D'où vient votre confiance? D'où vient votre manque d'anxiété? Comme ça, vous parlerez de votre Dieu céleste dans les cieux. Après tout, Jésus est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, et les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Que Dieu vous bénisse.
Parole du roi Nebuchadnezzar, que la paix vous soit donnée en abondance. Le règne du Dieu Très-Haut est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Prions. Seigneur, de nouveau, nous nous adressons à toi, grâce à Jésus, le Messie, le Sauveur. Et nous te bénissons, car tu es un Dieu qui règne éternellement. Merci, car tu veux et tu peux nous donner la paix en abondance. Et Seigneur, tu vois des choses qui nous troublent, qui nous inquiètent, qui nous empêchent peut-être de dormir ou de manger. Seigneur, nous te les confions. Et nous te prions d'intervenir dans nos situations diverses et différentes. Merci pour cette belle phrase, votre Père céleste sait. Merci car tu sais toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à laisser toutes choses entre tes mains. Nous te confions cette journée et nous te remercions parce que tu nous accompagnes jour après jour.